Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, heureuse de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. La nomination par le Saint-Père mercredi des membres au conseil d'administration de l'agence du Saint-Siège pour l'évaluation et la promotion de la qualité des universités et des facultés ecclésiastiques, les nouvelles de l'église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Bénin ou encore au Burkina Faso constitueront les points saillants de l'actualité de l'église de cette édition. En ce qui concerne l'actualité sociopolitique, elle nous conduira en Afrique du Sud, en Tunisie, en Éthiopie, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niemier.
Le Saint-Père a nommé mercredi des membres au conseil d'administration de l'agence du Saint-Siège pour l'évaluation et la promotion de la qualité des universités et des facultés ecclésiastiques. Il s'agit du Père Henri Omoni Sayé, conseiller général de la Congrégation des Fils Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, du professeur Anthony Paul McLaren, recteur de l'Université Sainte-Marie de Londres, et du professeur Antonio Felice Urricchio, président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'évaluation du système universitaire et de la recherche. L'aide à l'Église en détresse internationale demande des contributions pour lui permettre d'imprimer 12 960 exemplaires de la Bible pour enfants en langue Kalanga pour la distribuer aux enfants de la tribu Kalanga dans l'ouest du Zimbabwe. Depuis 42 ans, la Fondation de droit pontifical publie la Sainte Écriture dans une version attrayante pour les enfants pleine d'images et d'histoires. À ce jour, il a été imprimé en 191 langues à 51 millions d'exemplaires au total. Bien que la langue de la tribu Kalanga soit reconnue comme l'une des langues officielles du pays et qu'elle soit parlée dans 188 écoles locales, à part quelques manuels scolaires, il n'existe aucun autre livre en langue Kalanga. Les membres des Salésiens de Don Bosco en République démocratique du Congo réinstallent des centaines d'enfants qui avaient été évacués de leur centre suite à l'éruption volcanique du Nyiragongo en mai dernier à Goma. Les jeunes qui avaient été évacués du centre Don Bosco à Goma pendant l'éruption volcanique du Nyiragongo sont retournés au centre, déclarent les Salésiens dans un rapport publié mardi 27 juillet par Mission New Ways. Lorsque le volcan est entré en éruption le 22 mai, les responsables du centre Don Bosco Ngangi rappellent dans le rapport que les Salésiens, les sœurs salvatoriennes et les filles de Marie Auxiliatrice ont dû retirer tous les enfants de l'orphelinat Maison Ushindi et les jeunes résidents de l'Institut Saint-Kizito afin de les mettre en sécurité. Toujours en République démocratique du Congo, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée ont célébré les 90 ans de leur présence dans le diocèse d'Idiofa. Reportage.
L'évêque d'Idiofa, dans les provinces du Kasaï et du Kwilu, remercie les missionnaires Oblats de Marie Immaculée pour les 90 ans de leur présence dans son diocèse. Paraphrasant un message du supérieur général des Oblats, le père Louis Lougen, Mgr Joseph Moko a souhaité la poursuite de la collaboration des Oblats, fondateurs du diocèse, et leur engagement dans de nouvelles paroisses. L'évêque avait tenu à présider la messe du dimanche 25 juillet à Ifanzondo, pour le jubilé des missionnaires et pour l'ordination de trois nouveaux prêtres Oblats, les pères Joseph Mukongo, Constantin Mahana et John Mwalenia. Mgr Louis Mbol, missionnaire Oblat de Marie, évêque émérite d'Idiofa, et une cinquantaine de prêtres ont aussi imposé les mains sur le nouveau prêtre. Les évêques ont aussi imposé les mains sur huit nouveaux diacres. Jean-Baptiste Nguangu, Joël Kalaki, Francis Malitze, Emmanuel Lebesse, Jonani, Emmanuel Okaigwe et Dominique Kimani. Les huit nouveaux diacres Oblats sont des deux Congo, du Nigeria et du Lesotho. Le supérieur provincial des Oblats du royaume des Lesotho, le père Boatile Sidney, a fait le déplacement jusqu'à Ifanzo. Zondo. Le supérieur provincial du Congo, le père Joseph Ntumba, a souligné le fait que le lien spirituel et historique demeure aussi entre les Lesotho et la République démocratique du Congo. Le premier missionnaire Oblat, arrivé en 1931 à Ipamou, est venu du Basutoland, l'actuel Lesotho. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Le Centre Sainte Famille de Nazareth de Yamoussoukro a abrité du 22 au 24 juillet dernier la conférence des présidents diocésains de la FENAPEC, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants de l'enseignement catholique de Côte d'Ivoire. Le père Jean-Louis Ndrema, premier responsable du système éducatif catholique, les a invités à s'inscrire dans la réforme de l'éducation catholique pour l'avancée de l'éducation dans le pays. Complément d'information avec notre correspondant local.
L'objectif de cette rencontre, selon Joseph Amissa, président du bureau exécutif de la FENAPEC, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'enseignement catholique de Côte d'Ivoire, était de permettre aux responsables de cette fédération de mieux appréhender les enjeux et les objectifs de la réforme de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire dans le but de se mettre au diapason des changements opérés dans cet ordre d'enseignement.
On voudrait essayer, disons, d'épouser l'idée que la nouvelle école nous présente pour que nous, en tant que parents d'élèves, nous puissions comprendre cette réforme et que nous puissions, disons, nous en approprier. Nous devons faire en sorte que notre choix de l'école catholique puisse correspondre quand même à nos attentes.
Était donc convié à ces assises le premier responsable du système éducatif catholique ivoirien. Dans son exposé axé sur la réforme de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, le père Jean-Luc Ndrema a insisté sur l'importance pour la FENAPEC de s'inscrire résolument dans cette vision de l'épiscopat ivoirien, celle de faire de l'école catholique la locomotive de l'éducation dans le pays, en mettant au cœur de ses actions la formation intégrale de l'homme.
Il leur appartient désormais de s'approprier de cette réforme. Le statut ecclésial est là pour les éclairer sur l'organisation, sur les règlements, sur l'esprit, sur la mission, à chacun en tant que baptisé de trouver la place qui lui convient.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Allons au Burkina Faso pour évoquer avec notre correspondant local la célébration des vœux de religion et jubilés de vie religieuse chez les frères de la Sainte Famille à Saaba, non loin de Ouagadougou.
Dans une même liturgie ont été célébrés le lundi 26 juillet 2021 les vœux perpétuels et temporaires ainsi que le jubilé d'or et d'argent de 10 des frères de la Sainte Famille en l'église paroissiale de Saaba, non loin de Ouagadougou. Comme jubilaire, on avait le frère Jérôme Komi totalisant 50 ans de vie religieuse et les frères Eugène Tougma, Paul Savadogo et Casimir Ouaré, 25 ans chacun. Quant aux prophètes, trois étaient de vœux perpétuels. Frère Pascal Ouedraogo, frère Marcel Bamouni et frère Éloi Nana. Les prophètes temporaires, au nombre de trois également, sont frère Ambroise Kawaka, frère Armel Yameogo et frère Gaston Ouedraogo. Tous ont émis ou renouvelé leurs vœux entre les mains du supérieur provincial frère Julien Zongrana et en présence de Mgr Justin Kienga, évêque de Waïgouya, qui a présidé l'Eucharistie. Dans son homélie, il recommande ceci au prophète.
Si vous incarnez la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, vous êtes réellement hors Christ dans le monde ici.
En vue de les aider à réaliser cette condition, il leur recommande la figure de Saint Joseph dont nous vivons l'année.
Je vous invite donc à avoir une dévotion particulière à l'égard de ce saint discret et puissant. Ce saint est tout à fait dévoué pour toutes les causes que nous présentons.
À la liturgie d'offrande, les élus du jour ont apporté à l'autel, outre les oblats, des bougies allumées, leurs outils habituels de travail et des fruits, en signe d'offrande d'eux-mêmes à la suite du Christ lumière du monde, par qui ils espèrent porter du fruit pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Paul Da Ouagadougou pour Radio Vatican.
Refermons cette page de l'actualité de l'Église par la visite du nonce apostolique Mgr Gérard Maïès dans l'archidiocèse de Cotonou, au Bénin.
Après la conférence épiscopale du Bénin et plusieurs autres diocèses du pays qui ont eu l'opportunité de recevoir la visite du nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Mgr Marc-Gérard Maïès, depuis son arrivée au Bénin le lundi 3 mai 2021, c'est au tour des filles et fils de l'archidiocèse de Cotonou, le vendredi 23 juillet 2021, de l'accueillir à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde pour une célébration eucharistique qui marque officiellement le début de son ministère pour l'archidiocèse. Et l'ordinaire du lieu, Monseigneur Roger Rumbedi, de s'adresser à son hôte.
Ce diocèse est particulièrement le vôtre, vu que vous y avez votre résidence et vos services en tant que représentant du pape. Toutes les portes du diocèse vous sont ouvertes à travers les visites et sollicitations diverses qui vous seront adressées. Vous découvrirez progressivement les réalités aux multiples facettes de notre diocèse.
Dans sa méditation des textes du jour, Monseigneur le nonce en a tiré quelques enseignements pour l'assistance.
Pour mieux vivre le commandement et consolider sa foi dans le Seigneur, il s'avère important d'écouter la parole de Dieu et de l'accueillir dans un bon cœur. Vivre régulièrement les sacrements de pénitence et de réconciliation, prier avec la parole de Dieu, participer avec dévotion à la Sainte Messe, développer une dévotion quotidienne à la bienheureuse Vierge Marie.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'Afrique du Sud a dénoncé mercredi la décision unilatérale prise la semaine dernière par la Commission de l'Union africaine, UA, d'accorder à Israël un statut d'observateur au sein de l'organisation panafricaine. La Commission de l'Union africaine a pris cette décision unilatéralement sans consulter ses membres, selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, qui l'a qualifié d'inacceptable, d'inexplicable et incompréhensible. L'Union africaine a accordé la semaine dernière à Israël le statut d'observateur qui réclamait depuis des années. Une victoire diplomatique pour l'État hébreu qui, selon les deux parties, devrait notamment permettre à Israël d'aider le continent africain à lutter contre la pandémie de COVID-19 et le terrorisme. Au moins 8 personnes, dont un militaire, ont été tuées dans 2 attaques distinctes survenues dans la région du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué mercredi l'armée congolaise. Les assaillants ont abandonné un bébé sur le corps de sa mère, découvert non loin d'une rivière, à environ 2 km du lieu de l'attaque, a fait savoir Lewis Tembo, président de la société civile locale de la commune de Bulongo, à Beni. Quelques 5000 réfugiés éthiopiens devraient arriver au Soudan voisin dans les prochaines 48 heures, a annoncé mercredi un responsable soudanais. Des milliers de personnes continuant à fuir la région du Tigré pour échapper au combat. Le Tigré est le théâtre de violents combats depuis que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée en novembre 2020 contre les autorités régionales dissidentes, un conflit qui a fait des milliers de morts et provoqué une grave crise humanitaire. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a appelé mardi son successeur Alassane Ouattara à libérer les prisonniers arrêtés pendant la violente crise post-électorale de 2010-2011 et qui sont toujours en prison. Cette crise a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, la paix dans notre pays, a de son côté déclaré M. Ouattara lors d'un point de presse commun des deux hommes après leur première rencontre depuis 2010.
Radio Vatican, Français-Afrique, Françoise Niamier.
La principale formation politique du Parlement tunisien a appelé au dialogue mardi, indiquant être prête à des élections anticipées après le coup de force du président Kais Saied, qui a notamment suspendu l'Assemblée et limogé le Premier ministre. Dimanche soir, le président Saied a ordonné la suspension des travaux du Parlement pour un mois, limogé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et s'est octroyé le pouvoir exécutif. Il a ensuite limogé lundi 2 ministres, dont celui de la Défense. L'ONU et ses sources sécuritaires ont annoncé mardi qu'un casque bleu a été blessé et un membre des forces armées centrafricaines a été tué lundi dans une attaque lancée par des rebelles en Centrafrique, à 900 km à l'est de la capitale Bangui. Deux Mauritaniens enlevés au Mali le 18 juillet dernier en compagnie de 3 ressortissants chinois ont été libérés mardi, a indiqué une source proche du gouvernement mauritanien. Les 5 hommes avaient été enlevés lors d'une attaque contre un site de construction d'une route à quelques 55 km de la ville de Kouala, dans le sud-ouest du Mali, non loin de la frontière mauritanienne, selon l'armée malienne. L'actualité sociopolitique africaine, c'est aussi le Maroc, où une équipe internationale a découvert l'achéolien le plus ancien d'Afrique du Nord, qui remonte à 1,3 million d'années dans la périphérie de Casablanca, ont indiqué mercredi des chercheurs marocains ayant participé au programme de recherche.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine sur les organisations internationales et solidarité. Donatien Yembo.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et solidarité porte sur l'appel que M. Koudankyo, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a lancé aux dirigeants mondiaux à l'ouverture du pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires lundi 26 juillet dernier. M. Koudankyo a appelé à adopter d'urgence une approche globale et coordonnée pour transformer les systèmes agroalimentaires et réaliser les objectifs de développement durable ODD d'ici à 2030. Nos systèmes agroalimentaires ne fonctionnent pas convenablement et dans de nombreuses régions du monde, ces systèmes ne sont pas efficaces, inclusifs ni durables, a déclaré M. Kou avant d'indiquer que la pandémie de COVID-19 avait aggravé la situation. Selon un rapport publié ce mois-ci par la FAO et ses partenaires, environ un dixième de la population mondiale, soit jusqu'à 811 millions de personnes, étaient sous-alimentées l'année dernière. Compte tenu de ce chiffre, il faudra un effort considérable pour parvenir à honorer l'engagement qui a été pris de mettre un terme à la faim d'ici 2030. Le directeur général de la FAO a souligné que, en cette période critique, le monde faisait face à un défi historique qui consiste à transformer les systèmes agroalimentaires et à se remettre sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable. Pour que cette transformation ambitieuse devienne une réalité, nous devons faire évoluer les politiques, l'état d'esprit et les modèles d'activité, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture à laquelle ont participé des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, des ministres et d'autres représentants de haut niveau dont une partie a assisté à la réunion en présentiel et l'autre en visioconférence. Parmi les intervenants figuraient le Premier ministre italien M. Mario Draghi et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies M. Antonio Guterres, le président du Rwanda et président de l'Agence de développement de l'Union africaine M. Paul Kagame et le représentant du pape François Mgr Paul Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. M. Kou a notamment souligné que la FAO était devenue plus efficace, plus inclusive et plus adaptée aux buts poursuivis ces deux dernières années et qu'elle était positionnée stratégiquement pour mener nombre de changements nécessaires en vue de la transformation des systèmes agroalimentaires. Le nouveau cadre stratégique de la FAO pour la prochaine décennie, approuvé le mois dernier par la conférence de la FAO, met l'accent sur la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficace, plus inclusif, plus résilient et plus durable repose sur les quatre améliorations en matière de production, de nutrition, d'environnement et de conditions de vie afin de ne laisser personne de côté. En outre, l'initiative Main dans la main, une initiative phare de la FAO fondée sur l'appariement, vise à accélérer la transformation agricole et le développement rural durable afin d'éradiquer la pauvreté et d'éliminer la faim. Le directeur général de la FAO a également cité la Coalition pour l'alimentation, une initiative élaborée en partenariat avec le gouvernement italien et le programme FAO d'intervention et de redressement dans le contexte de la COVID-19 qui complète l'approche globale de l'organisme du système des Nations Unies. La FAO continue de renforcer les efforts conjoints menés avec toutes les parties prenantes dans tous les secteurs, régions et communautés, a-t-il déclaré, avant d'ajouter ensemble avec solidarité, efficacité et détermination. Le directeur général de la FAO a également souligné le rôle crucial que jouent les jeunes et a expliqué comment, peu après avoir pris ses fonctions en 2019, il a lancé le comité de la jeunesse et le comité des femmes de la FAO afin d'accroître la participation des jeunes, de contribuer à l'autonomisation de femmes et de susciter leur intérêt pour l'innovation et comment il a sollicité d'importants groupes de jeunes du monde entier dans le cadre du lancement du Forum mondial de l'alimentation. Organisé en partenariat avec le gouvernement italien, le pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est tenu du 26 au 28 juillet 2021. L'objectif de la manifestation était de présenter les dernières approches scientifiques et fondées sur des données probantes de la transformation des systèmes alimentaires dans le monde et lancer une série de nouveaux engagements dans le cadre de coalitions d'action et de mobiliser des nouveaux financements et partenariats.
Marie-Josée Mwando Boaboalo nous présente maintenant la rubrique consacrée aux sciences.
Commençons notre rubrique sur la science par la climatologie. Les signes vitaux de la planète s'affaiblissent sous les coups de l'économie mondiale, ont mis en garde mercredi des scientifiques de premier plan s'inquiétant de l'imminence possible de certains points de rupture climatique. Ces chercheurs, qui font partie d'un groupe de plus de 14 000 scientifiques ayant plaidé pour la déclaration d'une urgence climatique mondiale, estiment que les gouvernements ont de manière systématique échoué à s'attaquer aux causes du changement climatique, à savoir la surexploitation de la Terre. Depuis une évaluation précédente en 2019, ils soulignent la hausse sans précédent des catastrophes climatiques, des inondations aux canicules, en passant par les cyclones et les incendies. Sur les 31 signes vitaux de la planète qui incluent les émissions de gaz à effet de serre, l'épaisseur des glaciers ou la déforestation, 18 atteignent des records. Ainsi, malgré la chute des émissions de gaz à effet de serre en raison de la pandémie de COVID-19, les concentrations de CO2 et de méthane dans l'atmosphère ont atteint des niveaux records en 2021. Les glaciers fondent de 31% plus vite qu'il y a 15 ans et la déforestation en Amazonie brésilienne a elle aussi atteint un record en 2020, transformant ce puits de carbone crucial en émetteur net de CO2. Avec un record de plus de 4 milliards de têtes de bétail, notamment vaches et moutons, la masse du bétail dépasse désormais celle des humains et des animaux sauvages combinés selon l'étude. Nous devons réagir face aux preuves qui montrent que nous allons vers des points de rupture climatique en prenant des mesures urgentes pour décarboner l'économie et en commençant à restaurer la nature plutôt que la détruire, a indiqué l'un des auteurs, Tim Linton de l'Université britannique d'Exeter. Les auteurs estiment qu'il existe en effet de plus en plus de preuves que nous approchons, voire avons déjà dépassé, certains des points de bascule qui pourraient entraîner le système climatique vers un changement climatique et irrémédiable. Cela inclut la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique qui pourraient être irréversibles à l'échelle de plusieurs siècles, même si les émissions de CO2 étaient réduites. Autre point de non-retour possible pour les récifs coralliens menacés notamment par les réchauffements et dont dépendent 1 demi-milliard de personnes. Les auteurs réclament des actions rapides, radicales dans plusieurs domaines, à savoir éliminer les énergies fossiles, réduire la pollution, restaurer les écosystèmes, opter pour des régimes alimentaires basés sur les plantes, s'éloigner du modèle de croissance actuel et stabiliser la population mondiale. En archéologie, une équipe internationale a découvert l'aquelaïen le plus ancien d'Afrique du Nord, datant de 1,3 million d'années dans la périphérie de Casablanca au Maroc. C'est ce qu'ont affirmé mercredi des chercheurs marocains ayant participé au programme de recherche. Jusqu'à présent, les archéologues estimaient que la culture aquelaine, dont l'une des caractéristiques est l'invention des outils bifaces pendant le paléolithique inférieur, s'était établie il y a 700 000 ans dans cette partie d'Afrique du Nord. Avec ce nouveau rebond chronologique presque le double, le pays se positionne à l'échelle du continent africain où l'aquelaïen est documenté à presque 1,8 million d'années en Afrique de l'Est et 1,6 million d'années en Afrique du Sud, a expliqué l'archéologue marocain Abdelwahed Ben Serre. Il s'agit d'une découverte majeure qui contribue à enrichir le débat sur l'émergence de l'aquelaïen en Afrique, se félicitait le co-directeur du programme franco-marocain Préhistoire de Casablanca, Abderrahim Moïb, lors d'une conférence de presse à Rabat. En anatomie, la pratique professionnelle du rugby est susceptible d'entraîner des modifications de la structure cérébrale selon une étude menée auprès de 44 joueurs professionnels et publiée récemment au Royaume-Uni sur fond d'inquiétudes croissantes sur les risques de commotion cérébrale liés à ce sport. La question de choc et blessures à la tête, que ce soit au rugby ou même dans le football, est de plus en plus discutée, notamment pour ce qui est des risques de maladies ou de troubles à long terme.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Niamien. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. Au revoir.